Bonsoir à tous et à toutes. On va pouvoir démarrer donc ce premier débat organisé par le comité de veille et d'études JOP Paris 2024. Donc je fais une petite remarque préalable. Donc c'est un débat qui sera enregistré, donc qu'on pourra retrouver en téléchargement, en podcast et réécouter et diffuser. Je pense que ça, c'est important aussi ce rayonnement national. Donc on pourra le diffuser justement sur le blog Mediapart qu'on a créé à l'occasion de la création de ce comité, donc qui est un blog qui s'appelle Comité de veille JOP 2024. Donc un petit rappel historique très rapide et ensuite on passera à la présentation et aux interventions. Le comité de veille et d'études, il a été créé en février dernier, il s'est déjà réuni une deuxième fois en avril. Il a donc la volonté de rassembler des organisations et des personnes qui posent la question de l'héritage des Jeux Olympiques et du lien entre le projet olympique et la place de la population et des acteurs concernés. Donc depuis, il y a eu la phase de candidature des Jeux Olympiques où on a beaucoup parlé de l'héritage et il y a depuis l'attribution des Jeux Olympiques le 13 septembre dernier, des annonces aussi qui ont été faites, par exemple par le ministère des Sports, d'augmenter de 3 millions le nombre de pratiquants et de pratiquantes sportifs. Il y a des objectifs de 80 médailles. Il y a donc ce genre d'annonces où nous, on a envie aussi d'être un outil de veille et de porter un regard justement sur ces annonces et de voir la faisabilité ou comment ça va s'organiser. Et donc notre comité rassemble différentes organisations. Donc c'est il y a bien sûr le SNEP FSU, mais plus largement la FSU et ses syndicats de la fonction publique. Il y a la CGT 93, la FSGT 93 aussi. Il y a aussi des chercheurs comme Dominique Charrier, qui est à l'UFR Staps-Orsay, ou Pascal Boniface, donc, qui est politologue et directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Donc on a vraiment envie d'avoir une identité la plus large possible. Et donc on a vocation à faire un peu de temps en temps état de la situation par rapport à la multiplicité des informations par rapport aux Jeux Olympiques et aussi d'organiser donc des conférences, des débats et des temps de réflexion où justement les membres du comité apportent justement leurs réflexions, apportent leur regard par rapport à leurs organisations ou par rapport à leurs thèmes de recherche. Donc le premier débat, là, il fait suite à un podcast qu'on avait aussi appelé les JOP sont-ils bons pour le sport, donc qui a été produit par Binge Audio et le SNEP FSU, et donc qui a fait déjà plus de 2500 ou 3000 écoutes sur Internet. Et donc on a envie de poursuivre ou d'entamer cette réflexion-là aujourd'hui, donc avec différents acteurs, donc de l'éducation nationale, du mouvement sportif et les syndicats. Donc je vais d'abord présenter les trois intervenants et puis ensuite on organisera donc trois interventions et on passera ensuite la parole à la salle. Donc je vais d'abord présenter Emmanuel Bonnet-Houlage, qui est ici au milieu, qui est coprésidente de la FSGT. Juste à ma droite, donc Thierry Théré, qui est délégué ministériel, donc ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc sur la question des JOP 2024. Je ne sais pas si je me trompe, vous préciserez. Et donc tout au bout à droite, Nathalie François, donc secrétaire nationale du SNEP FSU. Voilà, je m'en arrête là pour la présentation. On va commencer par vous, Monsieur Thierry Théré, donc avec une première partie rapide sur la présentation un peu de votre délégation, et donc ensuite là, une question plus spécifique qui est celle de savoir si les JOP sont bons pour l'EPS. Donc je vous laisse, on va dire, ouais, une quinzaine de minutes sur cette réponse-là, et de toute façon après on pourra compléter avec les interventions de la salle.
Merci beaucoup, bonjour tout le monde. D'abord pour vous dire que je trouve très, très sain et très, très dynamique qu'un ensemble de syndicats prennent le temps de se réunir et d'échanger sur un événement qui va mobiliser des centaines de milliers de personnes sur place et des milliards de téléspectateurs. Et c'est important d'interroger cet événement, comme vous le faites, à partir de l'héritage, un concept qui est sans doute nouvellement porté depuis quelques années, mais qui en réalité traduit simplement des choses très très anciennes, quasiment aussi anciennes que les Jeux Olympiques. Et j'aurai sans doute l'occasion de le redire lors de l'événement que vous organisez en novembre, puisque vous avez eu la gentillesse de m'y inviter. La deuxième chose que je voulais dire en introduction, c'est que dans un temps plus récent, la France a déjà porté des candidatures pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques auprès du CIO, et qu'à chaque fois, la question de l'héritage en éducation, même si ça n'a pas toujours porté ce nom, a été posée. Il faut savoir qu'en 2001, la France était expérimentatrice avec quelques autres pays sur sport, école et olympisme. Et la réflexion a sans doute débouché trois ans plus tard sur l'année européenne d'éducation par le sport. Et si on revient à l'histoire de la candidature de Paris pour 2024, d'une certaine manière, les choses se sont accélérées en 2015. L'idée était déjà en l'air, le dossier de candidature commençait à être travaillé, et dès cette année, il a été décidé de qualifier cette année d'année du sport de l'école à l'université. Et l'année suivante, le concept a été transformé en étant encore plus coloré Jeux Olympiques, puisque ça a été, vous savez, en 2016-2017, l'année de l'olympisme de l'école à l'université. Alors, au-delà du slogan, ça a quand même permis à quelques centaines de milliers de jeunes de travailler et d'équipes de se mobiliser autour de ces questions. Le ministère a recensé plusieurs milliers d'actions, alors de tout type, certaines très ponctuelles, d'autres qui s'inscrivaient dans un calendrier beaucoup plus long, beaucoup plus récurrent. L'État, toujours à l'époque de la candidature, s'est engagé, et cela s'est traduit par un document formalisé en février-mars 2017. Le pilotage en a été fait par le ministère des Sports, mais il engageait l'ensemble des ministères. Et cet engagement de l'État s'est traduit par une série de 24 mesures, 24 parce que 2024, dont plusieurs envoyaient directement, avec des indicateurs chiffrés, à ce qui était attendu de l'éducation nationale, et en particulier de l'éducation physique et du sport scolaire. Avec des points de centration, par exemple, sur le savoir nager en outre-mer, des choses comme ça. Lorsque le nouveau gouvernement a été mis en place, Jean-Michel Blanquer s'est emparé de cette question. Il a fait quelques annonces avec Laura Flessel, ministre des Sports, à l'occasion de la Journée nationale du sport scolaire, en septembre dernier. Et la première de ces mesures consistait à nommer un référent pour le ministère en charge de ce dossier Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette nomination n'a pas été réalisée tout de suite. Et en réalité, il n'y avait rien de très novateur, puisque chaque ministre avait été chargé par le Premier ministre de désigner un référent sur le dossier de Paris 2024, de façon à ce que l'État parle d'une seule voix au-delà des différents ministères. Juste avant de venir, j'étais précisément avec l'ensemble des référents de chacun des ministères et l'ensemble des préfets de tous les sites, de tous les départements et les régions dans lesquels il y a un site olympique. C'est une instance d'une quarantaine de hauts fonctionnaires qui prépare le travail pour le comité des différents ministres lorsque ce comité s'interroge sur les jobs 2024 dans des déclinaisons qui vont de la sécurité au travail, parce que ça va mobiliser des dizaines de milliers d'emplois, au sport, en passant par l'éducation. Donc cette nomination a été faite un peu plus tard, en février 2018, et s'est transformée, du point de vue du statut, en une délégation, compte tenu des enjeux colossaux, il faut bien le reconnaître, en termes d'héritage pour l'école. La ministre de l'Enseignement supérieur a souhaité rejoindre la dynamique, et cette délégation que Jean-Michel Blanquer m'a confiée a été élargie à l'enseignement supérieur. Dès lors, je rendais compte aux deux ministres ainsi qu'à Jean Castex, qui est le délégué interministériel. C'est lui qui met en synergie l'ensemble des ministères. C'est lui qui animait cette fameuse réunion que j'évoquais tout à l'heure. Ma lettre de mission renvoie globalement à deux registres. Le premier concerne tout ce qui relève du pilotage, de l'expertise, de la communication, de la représentation du ministre, des ministres dans les instances interministérielles, mais aussi du suivi de l'action en région et en académie. D'où l'intérêt de nommer un recteur, puisque quand j'ai été nommé, j'étais encore recteur de Rennes, de façon à pouvoir parler de pair à pair avec les différents recteurs qui sont en charge des politiques éducatives dans les régions. L'idée étant de ne pas faire des Jeux Olympiques une exclusivité francilienne, mais que ça transpire dans l'ensemble du territoire français et jusque dans les territoires ultramarins. Donc une première fonction. Une deuxième fonction, plus précise, plus technique, allant jusqu'au pédagogique, consiste à porter, à la fois politiquement et techniquement, un ensemble de mesures dont le centre de gravité, et je glisse tout doucement vers la deuxième partie de l'intervention, le centre de gravité porte sur les relations entre l'école et le club, entre l'institution scolaire et le mouvement sportif. De ce point de vue, vous le savez, il existe différents leviers. Tous ne sont pas mobilisés, mais ils sont tous en réflexion. J'en ai plus précisément 4 à activer. Et je le fais évidemment avec l'ensemble des services des deux ministères. Ça va de la DGESCO à la DGESIP pour l'enseignement supérieur, en passant par la DELCOM, l'inspection générale, évidemment, mais aussi en interministériel et avec le COJO, le CNOSF et le CPSF pour le mouvement paralympique. Donc cette centration sur les passerelles entre l'institution scolaire et le mouvement sportif s'appuie d'abord sur les aménagements ou les dispositifs qui permettent à nos élèves de vivre un double projet, ceux qui le souhaitent, un double projet sportif et scolaire. Alors vous connaissez les dispositifs, les sections sportives scolaires, les pôles, pour les meilleurs, et puis ici et là, les classes à horaires aménagées sport. Il faut savoir que ces trois dispositifs ont trois histoires différentes, que dans le cas des classes à horaires aménagées sport, il n'existe aucun dispositif réglementaire actuellement, il n'y a pas de cadrage réglementaire. C'est en général une sorte de copier-coller de ce qu'on connaît pour les classes orchestres, pour d'autres aménagements, mais il n'y a pas de cadrage juridique. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas stabilisé sur le plan réglementaire. Et puis, le paysage a considérablement changé depuis 2 ans, puisque les fédérations sportives, de leur côté, ont développé des initiatives en termes de projets fédéraux, de PPF, qui se traduisent notamment par une transformation des listes de sportifs de haut niveau. Jusqu'à présent, les SHN étaient très proches de l'élite. Désormais, dans ces nouveaux projets fédéraux, on observe une extension de la notion de SHN qui modifie totalement et qui augmente considérablement le nombre d'élèves concernés. Et du coup, tous nos textes, pas rentrer dans le détail, mais 2011, 2014, etc., deviennent obsolètes. Sur ce premier domaine, l'idée, c'est à la fois de revoir tout le cadrage réglementaire de ces dispositifs. Donc on y travaille, et on le travaille évidemment non seulement avec l'éducation nationale, mais avec le ministère des Sports et le mouvement sportif, et aussi d'augmenter le nombre de ces dispositifs, qu'il s'agisse des classes horaires aménagées ou des sections sportives. Le ministre a même avancé des objectifs ambitieux de plus 1000 sections sportives. C'est considérable parce que ça entraîne des moyens dans les rectorats et pas simplement des réaménagements des cursus. Ça, c'est le premier levier. Le second levier concerne le sport scolaire, qui est la passerelle naturelle entre le monde de l'école et le monde du sport, aussi bien pour le premier degré que pour le second degré. Mais j'évoque les deux parce que les objectifs sont sensiblement différents dans un cas comme dans l'autre. Pour le premier degré, Nous avons un travail à la fois qualitatif et quantitatif à réaliser. Qualitatif parce que les observations qu'on peut mener, les enquêtes qu'on peut réaliser montrent que l'éducation physique qui est assurée présente des facettes extrêmement hétérogènes et pas toujours satisfaisantes. Et quantitativement, on est très très loin d'atteindre les objectifs, enfin les volumes horaires des programmes. Donc il y a une réflexion qui va au-delà du sport scolaire ici, qui touche à l'éducation physique. Et l'un des objectifs, c'est d'utiliser le prétexte olympique pour dynamiser, renforcer la place de l'éducation physique et du sport scolaire dans le premier degré. Pour l'UNSS, la situation est différente. Quantitativement, on aura du mal à aller beaucoup plus loin. On peut, on a quelques marges. En plus, les académies ne présentent pas des résultats identiques. On a quelques marges. Mais l'effort va être porté sur autre chose. Il va d'abord être porté sur la dimension d'éducation citoyenne, avec un renforcement des objectifs sur la formation des jeunes officiels. L'idée est d'avoir, d'ici 2024, 10 000 jeunes officiels de plus que ce qui existe aujourd'hui. Et ces jeunes officiels seront en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'ils ils pourront bénéficier d'un renforcement de la formation assurée par les collègues en établissement ou au niveau des académies, un renforcement par le COJO sur des questions de valeur de l'olympisme, par exemple, ou de connaissance de l'olympisme. Et cette double formation assurée par le COJO et par les enseignants de PS permettra à ceux qui le veulent d'intégrer le pool des bénévoles aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques. Il faut savoir que le COJO va recruter autour de 70 000 volontaires entre juillet et août 2024 pour assurer l'organisation. Et donc c'est une expérience extrêmement riche pour les élèves, mais ça pose des problèmes de suivi de cohorte notamment. Et puis il y a un deuxième volet pour l'UNSS qui est de démontrer que des grandes manifestations sportives, ça doit aussi concerner très directement les scolaires et pas simplement des champions qui ont quitté l'école depuis très longtemps. D'où l'idée d'organiser en France les Jeux Olympiques des scolaires, qui ne s'appellent pas comme ça, qui s'appellent les gymnasiades, qui ont lieu comme les Jeux Olympiques tous les 4 ans, alors tous les 2 ans, mais une fois en été, une fois en hiver. Et on est dans la perspective de présenter une candidature pour 2022, c'est-à-dire 2 ans avant les JOP de Paris. Et là-dessus, le Comité international olympique est intéressé parce que c'est un moyen pour les défenseurs de l'olympisme de montrer qu'on peut construire des liens entre le monde scolaire et le monde olympique sur un même lieu, sur quasiment les mêmes installations. On pourrait créer du lien sur ces 2 années. Le troisième levier à mobiliser pour renforcer les passerelles concerne la mise en place de formation au métier du sport dans le second degré. C'est ce qui s'est traduit pour l'instant, il y aura peut-être d'autres perspectives ou d'autres initiatives, ce qui s'est traduit pour l'instant par la mise en place des mentions complémentaires dont les premières ouvriront à la rentrée de septembre dans quelques académies. Elles concernent, vous le savez, la formation sur deux secteurs professionnels que sont en gros le sport pour tous et les activités aquatiques, avec l'idée que ces jeunes basculeront ensuite dans des CREPS pour passer un BPJEPS. Enfin, le quatrième levier consiste à renforcer, valoriser et déployer toutes les initiatives prises par les établissements. Alors, on le fait de plusieurs façons. D'abord, en les labellisant. Ce label a été annoncé en septembre. Il s'appelle Génération 2024, mais il faut savoir qu'il avait déjà été explicité dans le fameux document de février 2017, de mars 2017, sur les engagements de l'État. En tout cas, cette année, il est opérationnalisé. Il consiste à donner aux écoles, collèges et lycées qui présentent certaines caractéristiques, je vais y revenir, un label dès lors qu'elles ont fait du sport une sorte d'image l'image de marque. Et on voit en quoi c'est intéressant pour l'éducation physique. Alors comment ? Le cahier des charges repose sur quatre volets. D'une part, que l'établissement en question ait noué des liens, des partenariats, voire des conventions avec le mouvement sportif local. Deuxièmement, que les élèves participent à des manifestations sportives, que ce soit en AS ou autre, ou organisent des manifestations où la dimension sportive est importante, mais ça peut être tout simplement une partie, qui sortent un peu de l'ordinaire. Troisièmement, que l'établissement organise des aménagements pour les élèves qui veulent faire du sport une partie de leur cursus, qu'il s'agisse des dispositifs dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi d'aménagements peut-être plus modestes. Et depuis que je tourne dans les académies, je vois des choses. On a vraiment de tout, mais c'est chaque fois fait avec les équipes des enseignants de PS et généralement, ils en sont très satisfaits. Enfin, le dernier levier le dernier volet du cahier des charges consiste à optimiser l'utilisation des installations sportives lorsqu'elles sont notamment intramuros, et on travaille à aider le type de convention qui peut gérer ou aider à gérer les relations entre mouvements sportifs, établissement et collectivité. La question qui se pose ensuite, et pour en revenir à la question de fond de départ, est-ce que tout ça c'est bon pour l'EPS ? Dès lors qu'on a de l'EPS une vision culturaliste, et c'est ce qui est porté, force est de conclure à un aspect positif des Jeux Olympiques, mais à certaines conditions. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est à quelles conditions ces Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent-ils générer des effets positifs sur notre discipline ? Il y a différentes façons d'y répondre. La première, c'est peut-être de s'intéresser au niveau des valeurs. On pourra sans doute discuter tout à l'heure du niveau de l'institution, et je sais tout à fait que les dérives de l'institution olympique peuvent constituer autant de contre-modèles et dégrader l'image que l'olympisme en tant que valeur peut porter. Mais si on en reste au niveau des valeurs, le CIO a renouvelé son slogan, plus haut, plus loin, plus fort, avec la trilogie, vous la connaissez, excellence, respect et amitié. Il est très facile de construire intellectuellement des liens entre aussi bien cette trilogie que les objectifs de l'école, voire la devise républicaine. Mais l'excellence, il faut voir qu'elle est à la fois technique, technologique, qu'elle est aussi dans les équipements, dans la réussite des champions, et que tout cela constitue autant de modèles pour nos élèves. Et ça constituera d'autant plus des modèles qu'on est dans une situation de proximité. Et ça, c'est déterminant. Parce que les Jeux Olympiques, quand ils sont organisés à Pékin ou à Rio, c'est toujours l'excellence technique, technologique ou autre. Mais ça parle pas tant que ça. Ça parle par l'intermédiaire d'un petit écran, quoi. La télévision. Mais ça parle moins que lorsque nos élèves se déplacent sur ces installations ou voient des champions ou vivent des expériences avec des personnes qui participent aux Jeux Olympiques. J'étais hier à Saint-Quentin-en-Yvelines sur le vélodrome qui va accueillir les épreuves de cyclisme sur route. Il y avait une championne paralympique et un champion olympique, et on était avec toute l'équipe du collège qui est à côté, parce qu'ils allaient ouvrir une section sportive scolaire à la rentrée. Et il y avait tous les élèves. Je peux vous dire que quand on a cette chance d'avoir un équipement olympique à côté, d'avoir des champions et puis des enseignants de PS extraordinaires sur la dynamique qu'ils ont su impulser, cette proximité-là, elle donne du sens, elle donne de l'intérêt, elle dynamise totalement ce que les élèves font. Et précisément, ce sens, je crois que c'est un deuxième intérêt des Jeux Olympiques. Ça permet de construire des projets qui parlent aux élèves, qu'il s'agisse de pays dans le collège ou d'autres types de dossiers ou de TPE en lycée. on a à travers les Jeux Olympiques, qui se déroulent là sous nos yeux, autant de manières de renforcer la mise en projet ou la construction de projets. Et cette proximité, elle est certes en Ile-de-France, mais vous le savez, il y a 39 sites olympiques au total, 39, et une douzaine de villes qui sont concernées. Donc, dans un rayon de 150 km, quasiment tous les élèves de France pourront être concernés par des équipements. Pour terminer, ces Jeux Olympiques permettent aussi de discuter, de communiquer sur le sport, sur l'EPS. Et je peux vous dire que tous les recteurs que je rencontre, je fais le tour de toutes les académies, tous les recteurs que je rencontre, ils passent quasiment une journée avec moi à parler de sport, d'éducation physique. On rencontre tous les acteurs, on rencontre les vice-présidents ou les présidents de région. On rencontre les présidents de CROSS, les présidents de GDOS. Ce n'est pas anodin. Parce que les dossiers, vous savez très bien, les dossiers de l'EPS et les dossiers du sport scolaire sont très complexes, sont très techniques. Évidemment, on a des IAIPR qui conseillent, qui sont là auprès des recteurs. Mais ce n'est pas pareil d'avoir quelques fiches que d'avoir quelqu'un qui vient du ministère et qui questionne, qui bouscule, qui rappelle les objectifs, qui se déplace en établissement avec le recteur à chaque fois. Donc tout ça, cette dimension communication, elle est absolument essentielle. Et pour terminer, cette dimension, elle va au-delà de l'éducation nationale. Avec les Jeux Olympiques, moi je passe au ministère des Sports très régulièrement. Et les collègues du ministère des Sports viennent à rue de Grenelle. Donc on a un vrai travail partenarial qui permet... on espère, de dépasser des clivages dont on connaît les racines historiques. Et cette bascule en interministériel, on espère qu'elle produira aussi des résultats. Elle commence à le faire, bien au-delà, puisque l'agriculture est embarquée dans le label Génération 2024. Les affaires étrangères le sont aussi, puisque l'AEFE, le réseau des établissements français à l'étranger, vient de s'engager également. Le ministère de la Culture est intéressé aussi. Donc voilà, on arrive par les Jeux Olympiques, progressivement, à placer le sport au centre des discussions. Et d'une certaine manière, ça fait plaisir à voir.
Merci. Merci bien. On poursuivra donc après avec vos questions. On va donc donner maintenant la parole à Emmanuel Rivage, co-présidente d'une fédération sportive multisport et non olympique. Et donc la question qu'on pose, c'est le regard un peu que porte la FFGT sur l'héritage, alors qu'il y a un débat qui est posé en ce moment justement sur la question de la gouvernance du sport. Et donc la question traduite, c'est les JOP sont-ils bons pour le sport pour tous?
Alors effectivement, je pourrais dire oui à condition que, mais je dirais non. Et j'espère que ça créera l'échange après, et je vais essayer de développer pourquoi je dis non, parce qu'on est effectivement très préoccupé sur l'avenir d'une fédération omnisport comme la nôtre. Alors petite précision aussi, je suis élue au comité national olympique sportif français, je suis d'ailleurs la seule représentante d'une fédération multisport et affinitaire. Et la FFGT, donc c'est 270 000 pratiquants, et elle a la particularité d'être la fédération la plus importante en nombre de pratiquants dans les quartiers prioritaires, les quartiers dits politiques de la ville. Et ça veut dire que de par notre activité, notre histoire aussi, parce que c'est plus de 80 années, on contribue de la réduction de l'inégalité d'accès au sport. On contribue, en tout cas, on essaye de pallier aussi au manque d'infrastructures sportives. Et voilà, je pense que c'est extrêmement important à dire, parce que très souvent, la légitimité même de nos fédérations, elle est remise en question. Finalement, pourquoi des fédérations multisports? Parce qu'il y a une fédération de tennis, de foot, d'escalade. Or, nos fédérations, et il y en a d'autres évidemment, on a des histoires et des ancrages territoriaux particuliers qui font qu'on contribue à une certaine réponse sportive et associative qui n'est pas prise en compte par ailleurs. Effectivement, pour nous, l'enjeu d'héritage, il se traduit de fait par une réorganisation du sport en France. Et d'ailleurs, le CNOSF, quand il a parlé d'héritage, il ne parlait pas d'équipement sportif, il ne parlait pas d'école. Il parlait bien d'une opportunité pour revoir l'organisation du sport. Et selon nous, pour privatiser au sens de réduire, de restreindre les acteurs et libéraliser au sens d'ouvrir aussi au marché la question de l'organisation du sport en France. Et donc, une démarche qui va à l'encontre, selon nous, de finalement démocratiser un peu plus les questions de politique publique sportive et donc des questions qui font partie de la démocratie et de la citoyenneté. Pourquoi je dis ça ? Parce que déjà la FSGT, qui est une fédé qui va plutôt bien parce qu'on a progressé dans le nombre de nos adhérents depuis 2008, et là on va dire qu'on stagne. N'empêche que depuis une dizaine d'années, on voit s'installer entre les fédérations sportives une concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on n'est plus dans des postures pour travailler ensemble sur des enjeux de pédagogie, de projets communs. On est dans des postures de concurrence. Nous, la FSGT, on est obligé d'entamer des démarches juridiques. On a une avocate pour nous aider à accompagner nos clubs qui subissent des pressions de fédérations délégataires qui imposent à tous les adhérents d'être licenciés chez elles, sinon le club ne recevra plus d'affiliation. Et pourquoi ces fédérations sont aujourd'hui dans cette situation ? Parce que les moyens ont baissé, on parlera des moyens évidemment, les moyens ont baissé et donc elles pensent à leur modèle économique et donc elles ont besoin de faire des adhésions pour financer leur politique sportive de haut niveau. C'est clairement ce qu'elles disent et elles ne s'en cachent pas. Et du coup, ça se traduit par des situations très, très complexes de pression entre les fédérations multisports et les fédérations délégataires et parfois même entre les fédérations délégataires qui pourraient avoir des activités en commun. Et ce que nous avons constaté, c'est que cette évolution de relation entre nos fédérations, finalement, elle s'est accentuée depuis les années 60 et donc depuis, finalement, Herzog et la mise en place de la nouvelle organisation du sport en France. Parce que en 60, l'enjeu, il était bien et la mission donnée à Herzog, elle était bien, elle se basait bien sur l'échec de la France aux Jeux Olympiques de Rome. Et donc, la refondation de l'organisation du sport s'est fondée sur un enjeu de faire de la France une meilleure nation sportive. Et on se rend compte qu'à partir des années 60, si on étudie un peu les conventions avec les fédérations délégataire, et ben on est passé vraiment d'un état où on réfléchissait ensemble aux enjeux de développement du sport pour toute la population, à tous les niveaux, le meilleur niveau pour chacun, à finalement une spécialisation de plus en plus importante par discipline sportive. Et donc finalement, l'enjeu de culture sportive, l'enjeu de l'omnisport au sens de l'humain, du sportif complet et pas du sportif spécialisé, c'est petit à petit amenuisé. Et donc on a assisté à un développement du sport discipline par discipline, à une spécialisation du sportif et donc à une prise en compte de la culture sportive de moins en moins importante. Et finalement, aujourd'hui, avec la perspective de 2024, on assiste exactement à la même chose. Les discussions au sein du conseil d'administration du CNOSF et l'enjeu, alors le sport pour tous, oui, il faut augmenter. Alors la ministre dit 3 millions de pratiquants, le comité olympique d'adhérents parce qu'il pense à l'association. Mais en réalité, l'enjeu, clairement pour moi, il porte sur le nombre de médailles d'or que la France devra avoir en 2024. Et l'analyse qui est faite, elle est très simple. Les Français n'arrivent pas à avoir des médailles d'or, donc il faut transformer le bronze et l'argent en or. Il faut faire en sorte qu'on arrive à obtenir ces médailles d'or, puisque finalement, on arrive à avoir beaucoup de finalistes, à faire pas mal de médailles de bronze, mais il faut qu'on aille plus loin. Et donc l'enjeu, il est de renforcer l'élite de l'élite. Et d'ailleurs, et ça peut être peut-être les effets positifs pour nous, on analyse déjà que certaines fédérations ont déjà transformé leur politique vers l'élite de l'élite. Et il y a des clubs dans certaines fédés qui quittent ces fédérations pour venir vers nous, vers l'UFOLEP ou vers la FSCF. C'est-à-dire qu'il y a déjà des fédés qui ont tout mis sur l'élite de l'élite. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est comme en 60, il est de faire avant tout, donc, non pas une nation de sportifs, mais une nation sportive au sens de l'élite sportive, et de recentrer les moyens sur les meilleurs au détriment, à notre sens, du sport pour tous et du sport dans sa diversité. Alors que l'histoire n'a pas été faite que de 60 et que de Maurice Herzog. Et moi, ce que je constate aussi, c'est que finalement, il y a le mythe de 60. Or, en 36, avec le Front populaire, il y a une véritable politique sportive qui avait commencé à être pensée par Léo Lagrange et qui s'est interrompue du fait de la guerre. Et après, on est passé à autre chose. Quoiqu'à la Libération, il y a aussi eu des enjeux de penser la politique sportive en termes de développement du territoire et surtout en termes de comment on organise au plus près de la population des espaces citoyens. On discute ensemble de à quoi doit servir le sport et de ce que doit être le sport aussi en tant qu'élément culturel. Et nous, on pense qu'il pourrait y avoir aujourd'hui des enjeux de ce type-là. Alors, les éléments concrets qui nous inquiètent, au-delà de ces généralités, comme il y a les Jeux Olympiques en 2024 et comme il faut donner la chance à certains sportifs d'avoir les meilleures médailles, eh bien, il y a la perspective de renforcer la délégation attribuée aux fédérations aujourd'hui disciplinaires. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est facilement la délégation. En gros, oui, voilà, il y a une délégation par discipline en France et les fédérations ont pour objet de définir les règles de sécurité et d'organiser les championnats de France, de sélectionner les sportifs, etc. Et nous, Fédération Affinitaire et Multisport, on a aujourd'hui la possibilité d'adapter nos contenus de pratique comme on le souhaite, même si on doit se soumettre aux règles de sécurité édictées par les fédérations délégataires. Et bien là, la perspective proposée par ces fédérations délégataires, qui sont majoritaires, donc nous, de fait, on n'a pas les rapports de force pour décider quoi que ce soit, c'est de renforcer leur délégation sur le terrain de la formation et sur le terrain des disciplines. Donc ça veut dire que la perspective, c'est que demain, une fédération comme la nôtre, elle pourrait être contrainte de produire les mêmes formations que ces fédérations délégataires et finalement d'organiser le même type de pratique. Donc en gros, la légitimité de notre fédération, elle pourrait être mise en cause si demain on ne peut plus adapter nos pratiques et faire nos formations. Et l'idée aussi, c'est que les fédérations délégataires soient chefs de file sur une discipline. Donc ça veut dire que demain, la Fédé de gym pourra nous dire comment on doit organiser la gym sur le territoire. Et donc pour nous, ça va évidemment à l'encontre de la réponse à la diversité des besoins, comme je l'ai défini au départ, dans le rôle même d'une fédération comme la nôtre, qui va pouvoir définir ses propres contenus, parce que nos contenus vont répondre à des besoins spécifiques sur des territoires donnés. Et l'autre dimension, c'est la fameuse agence du sport français qui a été décidée. Donc évidemment, nous, on a voté pour la notion de gouvernance partagée. Nous, on est évidemment pour que tout le monde puisse se mettre autour de la table pour définir les politiques publiques. À une condition, c'est que cette gouvernance partagée ne se réduise pas à 15 personnes autour d'une table qui vont du coup prendre la place d'instances démocratiques, en tout cas qui devraient être démocratiques, au comité olympique, au ministère des sports, au niveau des collectivités territoriales et au niveau du monde économique, où là en plus il y a un flot artistique qui mériterait vraiment d'être défini. Et d'autant plus qu'il y a aujourd'hui un Conseil national du sport qui a été mis en place il y a 5-6 ans, je crois, qui a même été renouvelée par décret, qui est composée de 80 à 100 personnes, une diversité très large d'acteurs, avec des débats intéressants, sauf que ce conseil, il était consultatif, donc il a jamais, les préconisations n'ont jamais été prises en compte, et puis il est mis au silence complet, probablement parce que effectivement il y a beaucoup de monde, et quand il y a du monde, c'est compliqué de prendre des décisions, et nous, on pense que certes, c'est compliqué, mais en même temps, plus il y a de monde, plus il y a de démocratie, que la démocratie, ça prend aussi parfois du temps. Et là, on a le sentiment qu'avec l'Agence du sport français, les temps de débats démocratiques risquent de diminuer. Et puis, évidemment, se pose la question de la place de l'État. Nous, on constate très clairement ces dernières années que les échanges et les relations avec le ministère des Sports ont régressé. Cette année, on n'a carrément eu aucun rendez-vous avec la direction des Sports pour parler de notre convention d'objectifs. C'est la première fois. Maintenant, on nous demande de renvoyer 2-3 projets. Donc, on a intérêt de renvoyer les bons, parce que si on ne renvoie pas 2-3 les bons projets, on ah ben, plus de subventions. Donc voilà, il y a une place moins importante aujourd'hui du ministère des Sports. Ceci dit, nous, on est très critiques sur l'évolution du ministère des Sports ces dernières années. Et pour nous, il ne répond pas à l'enjeu de définir les besoins de la population. Et pour nous, il faut repenser la place de l'État. Et si on repense la place de l'État... Alors, il y a l'école, effectivement, d'un côté, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, donc j'en parlerai pas. Mais du point de vue du sport institutionnel, l'État, il se réduit au ministère des Sports. C'est pas logique. L'État, ça devrait être l'ensemble de la population. Or, quels sont les lieux de concertation, les lieux d'élaboration des politiques publiques de sport qui associent les citoyens ? Aujourd'hui, nous, on estime qu'il y en a très peu. L'État, les moyens attribués aux directions départementales et régionales n'ont fait que baisser. Donc, il n'y a plus de construction commune ou très peu au niveau territorial. Donc, comment on arrive à créer des instances de concertation et d'élaboration citoyenne des politiques publiques? Pour nous, il y a des choses intéressantes qui ont déjà eu lieu dans l'histoire. Le Conseil national des sports qui a été mis en place aurait très bien pu être décliné au niveau territorial. Et l'enjeu, après, sera évidemment de définir ensemble quels sont les besoins de la population. Et aujourd'hui, malheureusement, la perspective des Jeux olympiques, alors l'école, c'est une chose, mais la perspective des Jeux olympiques en lien avec la population, en lien avec les fédérations sportives, il est inexistant. L'enthousiasme des fédérations sportives, il est, à mon sens, pas vrai. Il y a pas d'enthousiasme. Il y a peut-être un enthousiasme du point de vue des directions des fédérations sportives, mais pas des clubs sportifs et pas des pratiquants, en tout cas dans ma fédération et dans les fédérations multisports et affinitaires, c'est absolument pas une réalité. Donc voilà, nous on est assez sceptiques, d'autant plus que le contexte quand même du mouvement sportif, c'est une annonce des Jeux Olympiques en septembre 2024, 3 mois après, bam, moins 8% au budget des sports, perspective des subventions aux fédérations, c'est globalement une baisse, les cadres d'État pour les fédérations multisports affinitaires, moins 10%, donc ça va, voilà, c'est complètement à l'encontre de la promesse qu'on nous a vendue de l'opportunité avec les Jeux Olympiques de renforcer les politiques sportives en France. Et je terminerai avec la question du CNDS qui est absolument aberrante, puisque le CNDS a été divisé par deux, et d'une part, et d'autre part ne concerne que les grands clubs et ne concerne plus les petites associations sportives qui ne peuvent plus faire des demandes de subventions qui correspondent à une réalité de leur fonctionnement et de leur projet, puisque les paliers de demandes ne font qu'augmenter et risquent même, si j'ai bien compris, de passer encore un nouveau palier. Donc on a une incohérence entre les discours et la réalité de notre vie associative et sportive. Voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire que les JO profiteront au sport pour tous, parce que je me dis, et je le vois à la FSGT, nous on fêtera nos 90 ans en 2024. Ben pour nous, ça va être l'opportunité de dire ce que c'est que le sport pour tous, ce que c'est que le sport populaire, de montrer tous ces visages de pratiquants sportifs, et donc d'organiser peut-être des Olympiades populaires, si toutefois on nous autorise le mot Olympiade, parce que c'est encore un autre sujet, le sport pour tous, mais l'olympisme pour certains. Et donc, quelle appropriation aussi populaire de l'olympisme et des valeurs de l'olympisme. Et un des événements fondateurs dans l'histoire de la FSGT, ce sont les Olympiades populaires de Barcelone qui n'ont pas eu lieu. Alors, elles étaient organisées en opposition aux JO de Berlin. Ce n'est évidemment pas le contexte de 2024. Mais pour nous, il y a peut-être et probablement un enjeu pour faire vivre aussi l'olympisme et le sport pour tous, vraiment pour toute la population. Voilà.
Très bien, merci à nouveau. N'hésitez pas ensuite à poser des questions. Et donc, on va terminer par Nathalie François. Il y a des éléments de contexte qui ont été donnés sur la question sport. Il y a des éléments de contexte au niveau éducation nationale aussi. Il y a eu dans les deux, trois dernières années des réformes sur les contenus, une réforme de l'organisation du collège, il y a un débat sur l'organisation de la réforme lycée, il y a une annonce de baisse de 20% des postes au CAPES. Voilà, ces éléments de contexte peuvent interroger. Et donc, la question, on peut se demander donc, la place des profs, quelle serait la place des profs de PS défendue par le SNEP, et quel serait l'enjeu de la place de l'EPS de la maternelle à l'université, donc d'ici 2024 et après. Donc la question, c'est bien évidemment, les JO sont-ils bons pour l'éducation physique et sportive et le sport scolaire?
Alors je vais essayer d'être un petit peu plus bref, comme ça on ira un petit peu dans le débat, enfin plus longuement dans le débat. Donc bon, les Jeux Olympiques ont toujours fait partie des débats, y compris au sein du SNEP, hein, savoir est-ce que c'est bien d'avoir des Jeux Olympiques, est-ce que c'est l'idée qui est bonne, est-ce que c'est l'organisation qui est bonne ou pas bonne, etc. En tout cas, nous, on travaille sur cette question depuis longtemps et on considère qu'ils devraient s'organiser, et notamment parce qu'ils vont s'organiser en France et on porte donc une responsabilité sur nos épaules, ils devraient se construire et s'organiser dans l'esprit d'une excellence sportive humaine, dans l'expression des solidarités concrètes, dans la lutte contre toutes les inégalités, hein, de la pauvreté, l'exclusion, les violences faites aux femmes, le sort qui est donné au handicap, etc. Il faut qu'on traite de ces questions parce que, notamment, les Jeux Olympiques sont un moment de spectacle, un moment de rencontre où tout le monde se rencontre, tous les peuples du monde se rencontrent. Ils découvrent des petits pays qu'on ne connaissait pas sur la carte. Ils découvrent qu'on peut, quand on est une femme, faire des pratiques sportives, etc. ou ne pas en faire. Donc c'est des moments cruciaux sur lesquels on ne doit pas passer comme ça sous silence. Moi, je vais essayer de porter en gros ce que dit le SNEP sur ces questions-là et de faire quelques propositions pour tirer le sport et ses pratiquants vers le haut, parce que le but du jeu pour nous, en tout cas pour le SNEP, c'est qu'il y ait plus de pratiquants réguliers et non pas juste pratiquer une fois de temps en temps ou ne faire que regarder à la télé, mais c'est aussi possible. Donc, tous les petits éléments qui pourraient tirer le sport vers le haut. Donc la France, pour nous, elle devrait être exemplaire dans trois domaines, je vais les qualifier en trois domaines, en matière d'EPS à l'école et de sport scolaire, dans l'organisation du service public du sport, bon, Emmanuel en a déjà longuement développé, donc j'irai un petit peu moins loin, et dans la réduction des inégalités de l'accès aux pratiques sportives. Donc, il y a aussi un élément fort, c'est qu'il faudrait qu'on se décide enfin à porter la défense du sport pour le sport lui-même. c'est-à-dire le sport comme un élément de culture et non pas seulement, comme peuvent le faire le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère des Sports, le sport parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour la cohésion sociale. Le sport, il a aussi le droit d'exister pour le plaisir de pratiquer, pour l'excellence sportive, et je parle d'excellence à tous les niveaux. Quand on est à un petit niveau, on peut performer à son propre niveau, mais c'est aussi intéressant de progresser, etc. Et de pratiquer avec d'autres et non pas tout seul. Voilà, donc ce serait intéressant que le ministère se centre aussi sur ces questions-là dans plusieurs domaines. Donc je vais développer un petit peu sur les trois parties-là. Donc par exemple sur le comment on pourrait faire des pas en avant pour l'EPS et le sport scolaire. Donc la première proposition, donc là j'aimerais bien avoir quelques réponses, ou en tout cas je lance des pavés. Il faudrait pour nous recentrer les programmes sur ce qui doit être au cœur des apprentissages, c'est-à-dire les activités physiques et sportives, et artistiques aussi, puisque en EPS, on ne fait pas que du sport, on fait aussi des activités artistiques, les remettre au cœur des programmes scolaires. Donner plus de place et de reconnaissance à l'EPS à l'école, c'est-à-dire augmenter des horaires. Donc, je ne vais pas détailler, mais enfin, voilà, augmenter les horaires de l'éducation physique. C'est aussi donner plus de temps aux jeunes de pratiquer, donc c'est peut-être des effectifs moins lourds. C'est reprendre des propositions qui avaient existé, notamment dans les quartiers des zones d'éducation prioritaire, avec un prof d'EPS supplémentaire dans ces établissements-là, parce que comme ça, on est au plus près des jeunes et on répond à plus de proximité et d'encadrement. C'est rétablir une épreuve d'EPS au DNB, parce qu'une discipline qui n'est pas évaluée pour elle-même perd un petit peu de sa saveur et de son intérêt. Développer les options et pas seulement les options facultatives. Bon, là, c'est le débat de la réforme des lycées. Créer un enseignement de spécialité au lycée parce qu'il n'y a pas de raison, si le sport est considéré comme une culture et l'EPS avec les APSA doivent être un élément de culture et important dans la formation des élèves, eh bien, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un enseignement de spécialité au même titre que d'autres disciplines. Et enfin, puisque c'est là qu'on voit qu'il y a une grosse chute de la pratique, c'est rendre obligatoire l'EPS dans les classes de BTS, par exemple, et rendre obligatoire aussi à l'université, puisqu'on voit qu'il y a de moins en moins de pratiquants là. Voilà. Après, il y a des petites choses aussi, enfin des petites choses qui n'en sont pas des petites, c'est augmenter effectivement le nombre de postes au CAPEPS, augmenter le nombre de places en STAPS. Si on voit que maintenant, il y a aussi, on l'a évoqué hein, sur les métiers du sport, donc il faut absolument que les jeunes puissent entrer dans une formation qui les amène sur une variété des métiers du sport. Donc il faut des places en STAPS. Il faut aussi qu'il y ait, notamment à l'école primaire, qu'on recrute de nouveau des CPD, des CPC, qu'on implante des profs ressources dans les écoles primaires. Et je dis bien des professeurs et non pas faire venir des intervenants extérieurs qui, mis bout à bout, viennent six semaines là, sans projet suivi. Donc avoir des profs ressources, voilà, améliorer la formation, bien évidemment, des profs et des profs d'école aussi, des profs EPS et profs d'école. Alors, sur le sport scolaire, ce qu'on pourrait faire à l'Éducation nationale, d'abord, la première chose, ce serait augmenter la subvention UNSS et favoriser l'implantation et le développement, en tout cas, des AS dans le premier degré, puisque ce n'est pas obligatoire, donc il n'y en a quand même pas autant qu'on pourrait l'espérer. Je voudrais revenir sur les initiatives qui ont eu lieu, notamment portées par l'UNSS, sur l'année du sport de l'école à l'université et l'année olympique de l'école à l'université, qui ont fait beaucoup de tapage, mais ont eu peu de retentissement. Il y a très peu de jeunes, hein. Bon, j'ai les chiffres là si vous voulez qu'on en discute après, mais finalement il y a très peu de jeunes qui sont impliqués. Le label, c'est bien, mais ça apporte peu. Ça apporte encore moins que maintenant il y a la génération 2024 qui vient, qui paradoxalement, alors qu'il y avait eu quelques petits financements les deux années précédentes, là c'est sans moyens. Donc vous imaginez bien qu'effectivement, il y a des collègues qui sont sollicités, enfin des équipes EPS et des établissements qui sont sollicités pour participer à se faire labelliser pour Génération 2024, sans aide supplémentaire, pas d'horaire supplémentaire, pas de financement, alors qu'on leur demande par exemple d'aller à l'étranger, de développer des nouvelles pratiques, etc. Donc moi, la question que je me pose, c'est puisque le COJO semble très intéressé sur la Génération 2024, est-ce qu'il a établi un budget, par exemple, pour qu'on développe ce genre de choses, parce que l'UNSS ne pourra pas porter à elle seule ça si on ne développe pas ça. Et est-ce que l'UNSS doit porter la formation des bénévoles? Ensuite, sur l'organisation du sport, quelques exemples aussi. Bon, alors Emmanuel l'a dit, augmenter le budget du ministère des Sports parce qu'il en devient ridicule tellement il est petit. Les fonds du CNDS, effectivement, ils ont été diminués, mais surtout, ce qui pose problème, c'est que si on veut développer des pratiques, il faut que ce soit les clubs, et tu l'as bien dit, Emmanuel, les clubs, s'ils ne sont pas accompagnés financièrement, pas seulement pour les équipements, mais aussi pour s'acheter des maillots, pour renouveler les choses, etc., pour la formation des bénévoles, parce que les clubs, ils ne fonctionnent pas tout seuls, ils fonctionnent aussi avec des bénévoles. Et s'il n'y a plus d'aide pour participer à ça, les clubs ne seront pas aidés. Donc sans club, le sport pour tous, en tout cas, n'existe pas. Il y a une vraie réflexion sur, effectivement, l'investissement de l'État. Plus il y a une aide d'État, plus on a de chances de voir le coût des licences diminuer. Il y a une idée aussi, peut-être qu'il faut développer les licences multisports et les fédérations, justement, comme la FFGT, ont cette chance-là d'avoir des licences à moindre coût et de pratiquer plusieurs sports. Et pour revenir à l'UNSS, avec une seule licence, on fait plein de sports. Donc, ce serait bien de réfléchir à cette question. Et puis il y a l'inévitable recentrage qui doit se faire sur les personnels du ministère Jeunesse et Sport, qui de plus en plus remplissent des dossiers, etc., et ne font plus le métier pour lequel ils s'étaient engagés. Ils ne sont plus sur leur mission, et notamment, ils sont de plus en plus éloignés des clubs, ils sont de plus en plus éloignés de la formation. On voit que dans les CREPS, maintenant, il y a beaucoup de formations qui sont données au privé. C'est quand même dommage de ne pas utiliser des personnels qui sont bien formés, qui étaient investis là-dedans, et de donner tout ça au privé pour avoir des choses qui, finalement, au bout du compte, ne seront peut-être pas équivalentes. Enfin, alors, sur la réduction des inégalités. Alors, la première chose que je dirais pour réduire les inégalités, effectivement, il faut revenir sur le service public, que ce soit le service public du sport ou de l'éducation nationale. Tout ce qui restera, en tout cas, dans l'éducation nationale, dans le cadre de l'obligatoire, permettra de mieux développer les activités. Parce que dès l'instant où on a une pratique volontaire, d'abord, est-ce qu'on peut toujours y aller? Il y a la question du coût. Mais si on ne développe pas l'obligation, finalement, les personnes qui ne sont pas très enclines à vouloir pratiquer des activités, elles ne vont pas les chercher toutes seules. Tiens, je vais avoir envie de faire de la planche à voile, quoi. Si elles n'en ont jamais fait avant, bien encadrées, elles n'iront pas toutes seules chercher d'autres activités. Alors, je dis planche à voile parce qu'on n'en fait pas. Donc, ensuite, alors j'en étais restée là, voilà. Alors, les équipements sportifs, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, il y a des choses qui doivent absolument se faire. Depuis les lois de décentralisation, on a quand même obtenu de nouveaux équipements sportifs parce que certaines collectivités ont pris leurs responsabilités. Néanmoins, quand il y a la construction d'un établissement scolaire, la rénovation d'un établissement scolaire, il n'y a pas forcément les équipements sportifs qui vont avec. Alors, je vais vous donner juste un titre indicatif. Ce soir, il y a M. Blanquer qui va à Tilly-sur-Seule, un petit collège du Calvados, où il y a une école qui vient d'être totalement rénovée, le collège vient d'être totalement rénové, et il n'y a rien pour le PS, aucune obligation pour le Conseil Général de faire quoi que ce soit. Donc le gymnase, qui est un frigo en revêtement, c'est même pas ça, c'est du goudron, je crois. Hein. Et on a encore des jetons pour la lumière. La seule nouveauté qu'on a obtenue depuis 20 ans, c'est de ne plus payer les jetons pour la lumière. Donc je dis ça, je pense qu'il aura eu une petite visite ce soir, Monsieur Blanquer. Donc une petite obligation, donc il faudrait qu'on travaille sur ces questions-là. Et puis il faut aussi en finir avec, alors quand on va construire des nouveaux équipements, parce que l'héritage des JO va nous amener de... Enfin, on a déjà beaucoup d'équipements qui existent, puisque c'est pour ça que le Paris a été retenu. Il y en a quelques-uns qui vont être construits. Nous, on se pose aussi la question de... Ceux-là, ils ne vont pas nous servir, ils sont trop grands, ils sont... Bon, voilà. Mais par contre, il y a tout ce qui est centre d'entraînement, etc., qui pourrait être utilement réutilisé par nos écoles, par les clubs, etc. Mais pour ça, il faut qu'ils soient conçus différemment. Donc, il faut que les équipements arrêtent d'être construits avec une seule piste d'élan, avec un seul terrain tracé, pas de vestiaire, pas de salle pour se réunir, pour discuter, pour regarder sa pratique à la télé et l'analyser. Quand on a fait des petites vidéos, etc., il faut être moderne aussi dans la conception des équipements. Il faut aussi les implanter là où il y a du monde. Il suffit de regarder, c'est dans les zones, comme par hasard, les zones les plus peuplées, où il y a le moins d'équipements sportifs. Et évidemment, en plus, non seulement elles sont peuplées, mais c'est souvent les quartiers défavorisés ou les outre-mer, puisque de toute façon, ils cumulent les deux. Donc, il faut les implanter au plus près des établissements scolaires, parce qu'ils vont les utiliser toute la journée. Et puis, on les ouvrira le soir. Mais pour ça, la logique actuelle, c'est que ce sont les communes qui construisent. Les communes, elles ne pourront plus construire, parce que c'est trop cher. Et il faut que les collectivités prennent leurs responsabilités. Je l'ai dit tout à l'heure, mais les conseils départementaux, les conseils régionaux n'aident pas suffisamment au financement pour la construction, mais aussi pour le fonctionnement, le chauffage, l'entretien, le gardiennage, le ménage, etc. Donc il faut vraiment que l'État mette la part là-dedans, enfin mette aussi une part, parce que sinon elles n'y arriveront pas. D'autant plus avec les baisses qui viennent aux collectivités, la suppression de la taxe d'habitation, etc. C'est une politique générale qu'il faut. Un focus particulier sur la natation, parce que dire qu'il faut apprendre à nager, c'est bien, mais il va falloir trouver des bassins. Donc voilà. Et enfin, pour la réduction des inégalités, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, aider les clubs et les associations, parce qu'il faut absolument qu'il y ait des associations dans les territoires ruraux aussi. Dans les territoires ruraux ou dans les outre-mer, il n'y a que l'école. Alors déjà, il faut renforcer l'école, comme ça on est sûr qu'ils y passent tous. Mais en plus, si on veut faire quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose à côté, quoi. Et ce n'est pas en se recentrant que sur un financement sur les fédérations qui vont obtenir peut-être des médailles qu'on s'en sortira. Juste un petit aparté sur les fédérations multisports. Quand on regarde quand même les chiffres, les fédérations multisports et ou les fédérations non olympiques, elles regroupent aussi beaucoup de femmes. Et ce serait intéressant de continuer à les financer et à les aider, parce que si on finance que les fédérations olympiques, c'est pas forcément là où il y a le plus de femmes. Et un focus aussi particulier sur les personnes en situation de handicap, parce qu'il y a l'accessibilité non seulement des locaux qui devraient être, même si c'est inscrit dans la loi, ça ne l'est toujours pas, mais aussi dans la formation des encadrants. Et je ne parle pas que des handicaps moteurs, il y a aussi tous les handicaps mentaux, etc., qui sont compliqués. À l'école, on n'est pas bon, et en dehors, on n'est pas bon non plus. Donc là, s'il y a vraiment des progrès à faire, c'est aussi sur cette question-là.